France Culture.
Et c'est l'heure du journal de la rédaction.
Bonjour à toutes et à tous. Jusqu'à quel point cette nouvelle année nous offre-t-elle des raisons d'espérer? Déjà la nuit dernière aura réveillé un cauchemar récurrent, un nouveau drame de l'immigration en Méditerranée. 20 personnes au total, des hommes, des femmes, des enfants sont portés disparus au large de l'île de Lampedusa. Cela faisait 13 années que la Roumanie et la Bulgarie attendaient leur tour, intégrer Schengen. Depuis ce matin, c'est chose faite. Ce qui signifie également que l'espace européen de libre circulation a désormais une nouvelle frontière directe avec la Turquie. L'actualité en France, ce sont notamment ces dispositifs fiscaux qui risquaient de s'éteindre au 1er janvier que Bercy entend sauver coûte que coûte. On s'intéressera également aux chiffres des ventes de voitures neuves en baisse. Enfin, pour marquer cette nouvelle année 2025, toute la semaine, nous vous proposons de plonger dans nos institutions afin de mieux interroger les grandes transformations de ce premier quart de 21e siècle. Aujourd'hui, le régulateur de l'audiovisuel, l'ARCOM. C'est généralement l'image de réveillon incontournable. L'opéra de Sydney au milieu d'une pluie spectaculaire de fusées lumineuses et après que l'Australie a donc la première ouvert cette nuit les feux d'artifice du passage à la nouvelle année, le monde convole depuis ce matin avec 2025. Alors on l'espère surtout pour le meilleur et forcément un peu moins pour le pire, même si en l'occurrence les défis s'annoncent déjà extrêmement nombreux. 2025 réussira-t-elle à stopper enfin cette litanie de record de chaleur, mais aussi de catastrophes naturelles aggravées justement par le réchauffement climatique? Que peut-on encore espérer des nouveaux bouleversements au Proche et Moyen-Orient? L'Ukraine va-t-elle devoir commémorer dans la douleur le mois prochain le 3e anniversaire du début de la guerre d'invasion impérialiste menée par l'armée du Kremlin? Quoi qu'il en soit, 2025 aura donc d'ores et déjà rouvert dès cette nuit les portes de l'un des plus grands cimetières à ciel ouvert sur la route migratoire aujourd'hui, la plus meurtrière au monde, la Méditerranée. 20 migrants, parmi lesquels 5 femmes et 3 enfants, sont toujours portés disparus ce matin au large de l'île de Lampedusa. Bruno Duvic, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de France Culture à Rome. Le bateau parti de Libye a fait naufrage en pleine fête du Nouvel An et jusqu'à présent, Bruno, 7 personnes ont pu être secourues.
Et parmi les survivants, un enfant syrien de 7 ans, il voyageait avec sa mère, porté disparu. Selon les premiers récits, c'est un autre proche qui l'a tenu hors de l'eau après le naufrage. La famille avait pour horizon l'Allemagne, où le père se trouve déjà. Le petit garçon a pu lui parler lors d'un appel vidéo. Les autres survivants viennent de Syrie aussi, mais encore de Soudan et d'Égypte. Après avoir passé la nuit dans le centre de la Croix-Rouge de Lampedusa, ils doivent être transférés dans la journée, dans un premier temps, à Porto Empedocle et en Sicile, où se trouve un centre de première assistance, identification, information sur les droits des migrants. En milieu de matinée, les autres naufragés restaient portés disparus malgré les recherches. 3 chiffres pour résumer la situation vue d'Italie au tournant de l'année. Près de 300 personnes ont débarqué à Lampedusa ces dernières heures. Selon l'ONU, 1700 personnes sont mortes ou portées disparues en Méditerranée centrale l'an dernier. Chiffre effrayant, mais moins élevé qu'en 2023. Du fait des mesures prises par le gouvernement italien, accord avec les pays de départ, notamment pour retenir les migrants. Les arrivées d'exilés sans papier ont baissé de près de 60% l'an dernier en Italie. D'autres routes se développent. 2024 a par exemple été une année record pour les arrivées de migrants aux îles Canaries, au large du Maroc et du Sahara occidental en Atlantique.
Merci Bruno Duvic en direct de Rome. De plus en plus ambitieuse sur la scène européenne, la Pologne a pris ce matin le relais de la Hongrie à la présidence tournante du Conseil de l'UE, un changement accueilli avec un soulagement certain à Bruxelles. Il faut dire que le cavalier seul mené lors des 6 derniers mois par Viktor Orban, chantre de la démocratie libérale et par ailleurs fossoyeur de l'état de droit dans son pays, en ont agacé plus d'un. Alors, grâce à cette présidence tournante, Varsovie devrait jouer cette fois-ci autrement plus collectif que Budapest pour tenter de faire avancer les nombreux dossiers encore sur la table, parmi lesquels la lutte contre l'immigration irrégulière, mais aussi le pacte pour une industrie propre que la Commission doit présenter fin février, sans oublier le soutien à l'Ukraine dans le contexte pour le moins incertain de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump le 20 janvier prochain aux États-Unis. Après 13 longues années dans l'antichambre de Schengen, la Roumanie et la Bulgarie ont donc enfin été autorisées ce matin à accéder pleinement à l'espace de libre circulation sur route comme dans les airs, un symbole fort évidemment pour ces deux pays d'Europe orientale dont les dirigeants ont salué chacun à leur tour un moment historique, tout en rappelant qu'il s'agissait là d'un objectif clé depuis leur entrée dans l'UE en 2007. Alors avec cet élargissement, en particulier de la Roumanie, l'Europe découvre ce matin une nouvelle frontière directe entre son espace de libre circulation et la Turquie, ce qui nécessairement, Dominique André, va obliger à renforcer la sécurité.
Avec l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie, l'espace Schengen, qui a été créé il y a 40 ans, comprend maintenant 25 des 27 pays membres de l'Union européenne, sans compter ses voisins européens comme la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. En tout, plus de 400 millions d'Européens peuvent donc circuler librement, sans subir de contrôle dans cet espace. En théorie, car face aux enjeux des vagues migratoires et des risques terroristes sur son sol, l'Europe a fait de sa sécurité une priorité. La frontière entre la Bulgarie et la Turquie, qui devient la frontière extérieure de l'espace Schengen, est renforcée. Une période initiale de 6 mois est prévue pour limiter le changement potentiel des routes migratoires ou faire face à des menaces de sécurité intérieure. C'est l'abandon du veto de l'Autriche qui s'inquiétait de la surveillance des frontières extérieures qui a permis cette adhésion définitive. Nous continuerons à agir de manière responsable pour protéger et renforcer les frontières extérieures de l'Union européenne, promet le président roumain. La libre circulation aura des effets positifs pour l'économie de ces pays parmi les plus pauvres de l'Union européenne.
À peine plus de 10 minutes, tout juste le temps de tourner enfin la page de 2024 et surtout de se tourner entièrement vers 2025. Jamais depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, la traditionnelle allocution de la Saint-Sylvestre n'avait été aussi courte, et pour cause, puisque le président n'a plus aujourd'hui les moyens de tout décider comme il en avait l'habitude jusqu'à présent. Alors pour ses vœux, le chef de l'État n'a pas manqué tout d'abord de rappeler, il n'était pas très nombreux, les quelques moments de grande fierté nationale de cette année écoulée. Et puis, dans une forme plutôt rare de mea culpa, Emmanuel Macron a aussi fait acte de contrition en reconnaissant pour la première fois que sa décision de dissoudre seule l'Assemblée avait apporté davantage de division que de solution. Le président a également promis de faire trancher certains sujets déterminants aux Français, semblant ainsi ouvrir la porte à d'éventuels référendums ou conventions citoyennes. Une manière aussi, sans doute, pour le chef de l'État de brouiller la petite musique entêtante de certains de ses plus farouches opposants qui jugent inéluctable sa démission avant la fin de son mandat en 2027. Pour le reste, l'équation de cette nouvelle année reste donc invariablement la même. Le gouvernement menace toujours de tomber à chaque instant, tandis que les déficits publics, eux, continuent de se creuser et la dette de s'envoler. Or, c'est dans ce contexte que le gouvernement Bayrou a pris soin, dans les dernières heures de 2024, de prolonger toute une série de mesures fiscales qui allaient prendre fin au 1er janvier, faute de budget voté, ce qui, Camille Manière, donne d'ailleurs un premier aperçu des positions qu'il défendra très probablement dans les futures discussions budgétaires.
Longue liste de niches fiscales sauvées des eaux in extremis par Bercy, on distingue bien une priorité, celle de réaffirmer les engagements pris devant le monde agricole. Alors que la coordination rurale menace de bloquer Paris à partir de dimanche, le gouvernement Bayrou prolonge d'un trait de plume les crédits d'impôt sur les dépenses de remplacement pour congés de certains exploitants, ceux pour les exploitations qui ont reçu le label haute qualité environnementale, les encouragements fiscaux pour les entreprises qui s'installent dans des zones de revitalisation rurale. Les prix réduits sur le gazole non routier sont aussi confirmés au niveau pratiqué en 2023 et puis des aides maintenues aussi pour favoriser la transmission d'une exploitation à un jeune ou bien l'accroissement des cheptels bovins entre autres. Bien servis également les aides aux entreprises. Le gouvernement proroge les crédits d'impôt collection pour l'industrie du textile et de l'habillement particulièrement en difficulté ces derniers mois. Le crédit d'impôt innovation est aussi maintenu mais à un niveau ramené de 30 à 20% comme l'avait défendu feu le gouvernement Barnier. D'autres mesures enfin visent des dispositifs liés à la transition énergétique, écologique, au secteur immobilier aussi comme la prolongation de la réduction d'impôt locavantage pour les propriétaires. En tout cas avec ces textes de dernière minute, le gouvernement Bayrou dévoile des visées budgétaires qui sont très proches finalement de celles défendues par son éphémère prédécesseur. Il espère qu'un budget pourra être voté en février s'il n'est pas censuré d'ici là.
C'est l'un des nombreux effets secondaires de l'instabilité politique de ces derniers mois. L'autorisation de prescription du cannabis thérapeutique a pris fin hier. Ce faisant, faut-il y voir là l'épilogue de cette expérimentation qui dure depuis maintenant plus de 3 ans? C'est en tous les cas, Grégoire Motz, que craignent désormais les associations de patients qui plaident toujours en faveur de sa légalisation?
Il n'y aura pas de légalisation du cannabis thérapeutique dans les prochains mois. La phase officielle d'expérimentation vient de se terminer le 31 décembre. Une décision dangereuse pour Mado Gilanton, présidente d'une association de malades.
C'est une énorme déception, un énorme gâchis. Les patients, on les condamne à quoi ? Il y a trois solutions. Soit qu'ils vont en bas des tours chercher du cannabis qui n'est absolument pas de qualité pharmaceutique, soit à cultiver des plants chez eux et donc à se mettre dans l'illégalité, soit des menaces de tentatives de suicide. Des personnes qui disent qu'ils vont passer la frontière pour aller, pour les plus riches, sur un suicide assisté.
Tous les voyants étaient pourtant au vert pour légaliser le cannabis thérapeutique. En 2023, des engagements sont pris par l'ancien ministre de la Santé Aurélien Rousseau. Mais voilà, le flou politique des derniers mois empêche toute légalisation. Et si les autorités de santé décident de prolonger l'expérimentation pour 6 mois, c'est uniquement pour permettre aux 1200 patients traités de se sevrer. Incompréhensible pour les défenseurs de la légalisation, d'autant que les résultats sont probants pour Nicolas Autier, psychiatre et pharmacologue. Il préside le comité scientifique sur le cannabis thérapeutique de l'Agence de sécurité du médicament.
Et ce sont des résultats plutôt positifs, favorables, avec des patients qui sont soulagés pour 30 à 40% d'entre eux de manière significative, alors que ces patients-là, au préalable, étaient en situation d'impasse thérapeutique, c'est-à-dire qu'on avait tout essayé et rien ne soulageait leur souffrance, physique ou psychique.
Les défenseurs de la légalisation dénoncent une confusion des pouvoirs publics entre le cannabis thérapeutique et le cannabis récréatif. Ils espèrent convaincre le nouveau ministre de la Santé d'inscrire la légalisation dans le prochain projet de loi de finances de la Sécurité sociale.
Les ventes de voitures neuves en France sont restées à un niveau très faible en 2024. Les chiffres ont été publiés ce matin. C'est même 22% de moins par rapport à 2019, soit la dernière année avant la pandémie de Covid-19. Et là encore, c'est la situation politique instable depuis la dissolution décidée par Emmanuel Macron qui aura fortement freiné le marché de l'automobile. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors parmi les immatriculations de voitures neuves, les ventes de véhicules électriques notamment, qui connaissaient pourtant auparavant une ascension phénoménale, ont cette fois-ci reculé, Hakim.
Effectivement, les ventes ont baissé de 2,2%, et cela malgré le leasing social mis en place pour les voitures électriques, alors qu'elles avaient bondi de 47% en 2023. Quant à la part de marché de la voiture électrique, elle reste stable à 16,9%, ce qui est un grand problème malgré tout pour les constructeurs, car pour tenir les objectifs environnementaux fixés par l'Union européenne pour cette année, en matière d'émissions de CO2, ils devront vendre encore plus de voitures électriques. C'est ce qu'on appelle la norme CAFE. Des difficultés qui devraient encore durer dans les prochaines semaines, également avec la baisse du bonus écologique pour les voitures électriques qui va passer de 4 000 à 2 000 euros pour les ménages qui ont un revenu fiscal de référence supérieur à 26 000 euros par part fiscale. De plus, le prix reste un frein, lui aussi, d'autant que le marché manque de voitures électriques d'entrée de gamme autour des 20 000 euros pour y remédier. Citroën compte donc sur sa nouvelle IC3 électrique et Renault sur sa R5. En attendant, la mauvaise santé du marché de l'électrique devrait encore avoir des conséquences sociales. En effet, dans ce contexte, de nouvelles suppressions de postes ne sont pas à exclure dans les usines, chez les constructeurs, mais aussi les équipementiers, comme on l'a vu récemment chez Michelin ou encore Valeo et Bosch. Enfin, si le marché de l'électrique se porte mal, Thomas, celui de l'hybride, lui, se porte très bien avec des ventes qui ont atteint les 42,8%. Et cela, ça montre aussi que la part de marché d'ailleurs, Thomas, des véhicules thermiques, eh bien, est passée en tête à 51% des ventes devant l'électrique, le diesel et l'essence.
Merci Hakim Kasmi. En cette nouvelle année 2025, comment mieux prendre la mesure du temps qui passe et de ses transformations toute la semaine? Nous vous proposons pour cela de plonger dans nos institutions aujourd'hui. Un quart de siècle à l'ARCOM, le régulateur de l'audiovisuel. Éric Chavroux s'est entretenu avec celui qui termine en ce moment même son mandat à la tête de l'institution. Roch-Olivier Maistre est l'invité de la rédaction.
Bonjour Roch-Olivier Maistre.
Bonjour.
En 2000, l'histoire est déjà longue pour votre autorité de régulation. Peut-être certains l'ont déjà oublié, mais il s'agissait à l'époque du CSA, du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Quelles étaient ses missions et ses enjeux ?
Alors la régulation en France, elle a vu le jour en fait assez tardivement comparé à d'autres pays, parce que comme toujours dans notre pays, tout procède de l'État. Et on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais jusqu'aux années 80, c'est l'État qui contrôlait l'ensemble de la télévision et l'ensemble de la radio. Ça paraît un peu surréaliste, parce que 40 ans, c'est hier. Mais ce n'est qu'au début des années 80 que le paysage s'est ouvert et qu'on a mis en place une autorité de régulation pour organiser le paysage audiovisuel français, qui se libéralisait à l'époque. Le phénomène des radios libres, l'explosion de la bande FM et puis l'arrivée des premiers opérateurs privés de la télévision. Et à ce moment-là, donc, on a eu besoin, comme dans toutes les démocraties, d'avoir une autorité indépendante qui coupe le lien entre l'audiovisuel et l'État et qui organise le paysage. Et donc la mission historique de l'autorité, c'était de gérer les fréquences sur lesquelles émettent les éditeurs de télévision et les éditeurs de radio, délivrer les autorisations, de fixer les obligations pesant sur ces acteurs et de contrôler le respect de ces obligations. C'est pour ça que l'appellation de gendarme de l'audiovisuel s'est longtemps imposée. Et la loi de 86, qui est pour nous la colonne du temple, hein, c'est l'équivalent de la loi de 1881 pour la liberté de la presse, eh bien cette loi, elle a dû être modifiée presque une centaine de fois pour prendre en compte les transformations, les évolutions du paysage.
En 2000, par exemple, combien de personnes travaillent pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel ?
Alors à l'époque, ça devait être dans les 200, et aujourd'hui, donc l'autorité, dans sa nouvelle configuration, c'est 380 collaborateurs. Donc c'est une autorité qui a beaucoup grandi. Elle a changé d'appellation, elle a changé de gouvernance, elle a changé de périmètre, et elle va même changer maintenant d'implantation géographique.
En 2003, par décret, vous devenez officiellement autorité administrative indépendante. Qu'est-ce que ça signifie ?
C'est très intéressant quand on lit les mémoires que vient de publier Michel Cotta, puisqu'elle a été la première présidente de la première autorité, donc qui a été créée en 82. On voit bien qu'encore à l'époque, le lien avec la classe politique est très fort. Et donc progressivement, c'est une autorité qui a construit son indépendance, affirmé son indépendance.
Alors, il y a quand même eu des mises en cause assez récurrentes, et y compris votre prédécesseur, Olivier Schramek, a reconnu qu'il y avait eu une suggestion du président François Hollande concernant la présidence de France Télévisions. Est-ce que ça a entaché tout de même votre fonctionnement ?
Alors, il a témoigné de cela, effectivement, récemment dans une commission d'enquête parlementaire sur le sujet. Sur les 6 années, puisque j'arrive au terme de mon mandat, c'est une expérience que je n'ai pas connue. Sur aucune décision que cette autorité a été amenée à prendre, je n'ai connu une interférence de nature politique ou de nature économique. Donc je pense que cette autorité vraiment a conquis aujourd'hui son indépendance et que ce débat-là est derrière nous.
Pas de nature économique non plus, parce que, en particulier avec la naissance de l'ARCOM, vous êtes entré en contact régulier avec des acteurs de taille assez incroyable, comme Netflix ou des plateformes de ce type, aussi des acteurs comme Vincent Bolloré. Là non plus, économiquement parlant, vous n'avez jamais eu des frictions, des appels ?
Non, c'est un champ, le champ audiovisuel, extrêmement régulé. Et dans les décisions que l'autorité a pu prendre récemment, certaines très fortes, bah vous voyez bien que l'autorité sait s'affranchir des puissances économiques. La régulation, elle ne peut pas être transactionnelle. Ce n'est pas une négociation avec des acteurs. Chacun est à sa place. Nous, notre feuille de route, c'est la loi. Toute la loi, rien que la loi. Et c'est ce qui nous guide. Rien que pour l'année dernière, j'ai été auditionné près de 35 fois au Parlement. Donc, en réalité, bien plus qu'un gendarme, maintenant, c'est une autorité de régulation moderne, reconnue et très respectée en Europe. Le nouvel horizon, c'est le numérique et c'est notamment tous les textes européens qui ont été adoptés. C'est d'abord l'entrée des plateformes de streaming dans le champ de la régulation et c'est surtout les réseaux sociaux avec ce grand règlement européen sur les services numériques qui est tout récent, qui rentre en application, dont la gouvernance est assurée par la Commission européenne, mais en liaison avec une autorité désignée par chaque pays de l'Union. Et l'ARCOM a été désigné comme coordinateur des services numériques pour la France. Et donc on passe de plus en plus de temps dans cette régulation de niveau européen, qui est le bon niveau. Parce que pour dialoguer avec Meta, avec Google, avec X, avec TikTok, on voit bien que l'union fait la force et que le fait d'être des autorités qui régulent un marché de plus de 400 millions d'habitants, ça a tout de suite un poids à l'égard de ces plateformes très important.
Merci Roch-Olivier Maistre. Je rappelle que vous présidez l'ARCOM jusqu'à l'arrivée prochaine, le 2 février, de Martin Hajdari.
Et merci à vous, Éric Chavroux. On vient de l'apprendre aux États-Unis, un véhicule a foncé la nuit dernière dans la foule à la Nouvelle-Orléans. Un premier bilan fait état d'au moins 10 morts et 30 blessés. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, couvert au nord d'une diagonale La Rochelle-Metz, ensoleillé au sud. Quant aux températures, elles seront comprises entre 4 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par Nicolas Paumé. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.